Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bon réveil sur BPM. Il est 8h03, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous du Mantois que nous proposons chaque semaine le vendredi à 8h. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Mantes-la-Ville et nous sommes reçus par le maire Samy Damergy. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour à vous, merci de vous être déplacé, d'être venu chez nous.
Eh bien, merci de nous accueillir. Avec vous, nous reviendrons sur l'incendie qui a frappé le centre commercial Les Merisiers le mois dernier et les solutions que vous pouvez apporter aux professionnels touchés par cette catastrophe. Nous aborderons le sujet de l'habitat insalubre dans les parcs de logements sociaux et nous parlerons aussi évidemment du projet autour du quartier Mantes Université. On commence donc par cet incendie qui s'est déclenché fin mars au centre commercial Les Merisiers. Une enquête est en cours. L'incendie a touché plusieurs commerces et le cabinet médical. Qu'est-ce que la mairie a pu faire pour aider les commerçants et les médecins ?
Donc effectivement, donc cet incendie a touché quatre commerces, dont le cabinet médical. Ça impacte forcément donc les administrés et donc les habitants du quartier des Merisiers qui allaient s'alimenter ou donc ou aller chez le médecin donc dans ce centre commercial. Alors comme vous l'avez dit, une enquête est en cours. Manifestement, a priori, la piste est un problème électrique, donc un tableau électrique qui a pris feu et ensuite le feu s'est propagé dans les combles et ont touché donc par contact chacun des commerces. Alors le premier sujet qui est très très impactant pour l'ensemble des administrés, c'est évidemment le cabinet médical qui abritait donc deux médecins et deux infirmières. Nous avons proposé donc à ce cabinet donc notamment au docteur Le Foulon des locaux en mairie, des locaux qui appartiennent à la mairie. Nous avons également vu avec des gens de l'ordre qui lui proposent aussi, parce qu'ils avaient des possibilités de lui proposer un cabinet. Donc voilà, le cabinet médical est en train de réfléchir sur les possibilités qu'il pourrait avoir. Et parce que donc bien évidemment ils attendent aussi, il y a beaucoup de matériel a été détruit, il va falloir donc récupérer du matériel pour pouvoir se réinstaller. Voilà au niveau du sujet du cabinet médical. Concernant les autres commerces qui sont aussi impactés malheureusement, donc nous avons monté des réunions avec eux et avec le syndic, puisque en fait c'est un sujet privé. Donc avec le syndic pour pouvoir les accompagner au mieux, notamment par exemple un poissonnier. Donc on va essayer de voir avec des installations au niveau de la ville pour si il peut donc se réinstaller. Et au-delà de l'impact direct de cet incendie, on va quand même se poser la question donc de la vie dans ce centre commercial qui peut-être donner un autre axe de réflexion.
Et justement, concernant le cabinet médical, est-ce que vous envisagez une solution de long terme, notamment face à la problématique du désert médical dans la commune ?
Alors vous avez raison, c'est un problème dans la commune, un problème exacerbé dans la commune. Néanmoins, ça reste malheureusement un problème national. Le désert médical, c'est un sujet national. Évidemment, sur Mantes-la-Ville, on est fortement impacté, puisque c'est une ville de près de 22 000 habitants. Il n'y avait que 4 médecins et finalement maintenant plus que 2 généralistes. Et nous proposons des solutions, on va dire, palliatives, excusez-moi pour le terme, mais nous avons installé une cabine connectée qui permet d'avoir des ordonnances et donc c'est 70-75% de la bobologie comme ils disent qui permet d'avoir des ordonnances sur quasiment du quotidien. Néanmoins, bien sûr, ça ne remplace absolument pas un médecin. Donc le vrai sujet pour nous, c'est donc la construction, la mise en place d'une maison médicale dans laquelle on va faire venir un certain nombre de médecins et de l'installer en fait très très proche du quartier du centre-ville.
On va parler d'éducation à présent. Fin janvier, Mantes-la-Ville a été labellisée cité éducative à l'issue du comité interministériel des villes. L'objectif de ce label, c'est de renforcer par le biais d'aides financières les actions éducatives mises en place par les communes. Alors à Mantes-la-Ville, quels élèves cela concerne et quelles actions vous prévoyez dans ce cadre ?
Alors, c'est une cité éducative, donc on est vraiment très, très content d'avoir obtenu le label, hein, parce que très peu de cités sont labellisées. Donc on a pris le sujet à bras-le-corps. Et c'est un triptyque. En fait, on fonctionne avec l'éducation nationale, l'État et bien sûr la commune. Nous avons souhaité à ce qu'il soit porté par le collège des Plaisances. Pourquoi ? Parce que donc en fait on va pouvoir rayonner en fait la cité éducative, donc ça permet depuis l'élève en maternelle jusqu'à son insertion dans la vie professionnelle. Et pour nous le point nodal reste l'adolescence, donc le collège, d'autant que la municipalité précédente n'a pas permis donc aux ados d'avoir un certain nombre d'activités, que ce soit sportives, culturelles. Donc on voulait vraiment relancer et donc que le point nodal soit autour du collège. C'est la construction en fait de l'individu depuis la maternelle jusqu'à son insertion professionnelle. Un certain nombre de thèmes donc sont à choisir et sont construits avec l'éducation nationale, le collège et la commune. Nous avons choisi un thème qui est la science et notamment l'astrophysique, qui sera donc le fil conducteur au cours de leur évolution.
Et il y a des axes qui seront abordés auprès des élèves, c'est les axes vivre ensemble, ouverture sur le monde, persévérance des acteurs.
Alors effectivement, ce sont les axes principaux de construction. Donc il y a toujours un thème qui permet de les agglomérer. Et pour nous, donc le sujet de la science, qui est une ouverture, puisque donc on se pose des questions, on tente et puis on élimine ou on raisonne et on construit. Donc c'est ce qui permet donc l'évolution donc de l'individu depuis son jeune âge jusqu'à son insertion. Et j'espère donc une réflexion d'ouverture.
Un mot sur l'habitat. Fin janvier également, vous avez réamorcé le dialogue avec les bailleurs sociaux pour retrouver la perspective d'un habitat de qualité à Mantes-la-Ville. Alors d'abord, qu'est-ce qui ne va pas actuellement dans le parc des logements sociaux ? Quels sont les problèmes que vous avez constatés ?
Alors, la ville était une ville qu'on a toujours noté d'endormi, qui était une ville dortoir, une ville de passage, et notre volonté c'est vraiment de relancer un dynamisme, de relancer une attractivité au niveau de la ville. Nous avons en tant que commune engagé un certain nombre d'investissements avec des partenaires. On en a parlé très rapidement, donc voilà des investissements structurants. Et il se trouve aussi qu'évidemment dans la ville, il y a un certain nombre de bailleurs. Nous sommes une ville de près de 40% de logements sociaux. Il y a 3230 logements sociaux avec 6 bailleurs, 2 principaux, qui sont notamment dans des quartiers et certains quartiers politiques de la ville. Voilà, il faut absolument rénover, réhabiliter un certain nombre de logements, de restructurer les quartiers, de les réanimer, que les locataires se réapproprient l'espace collectif qui aujourd'hui reste désuet, à la limite non entretenu. Et donc voilà, on a demandé, on a réuni les bailleurs grâce aussi donc au préfet délégué à la politique de la ville. Et l'ensemble des bailleurs a joué le jeu, donc on s'est retrouvés, on a défini un certain nombre d'axes et il y a donc des ateliers de travail qui se font par quartier et par bailleur pour regarder les actions qui peuvent être menées et surtout voilà que l'ensemble des bailleurs donc prennent le train en marche, si vous permettez l'expression, puisqu'on redynamise la ville, qu'ils suivent cette action.
On aborde maintenant le gros dossier de cette interview, le quartier de Mantes Université. Avant de revenir sur ce qui est prévu, ce nouveau quartier, c'est l'occasion de valoriser la ville, notamment avec l'arrivée d'Eole.
Complètement, vous avez raison. Donc Eole, finalement, ce n'est plus l'Arlésienne. Nous sommes directement impactés par des travaux et par les gênes occasionnés par les travaux. On touche du doigt donc l'arrivée de Eole, qui devrait se faire vers fin 2024, début 2025. Aujourd'hui, donc ils arrivent dans la rue des Deux Gares. On va être encore impactés. Effectivement, donc le Éole sera le terminus au niveau donc de la gare de Mantes, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, et il se trouve qu'à cette zone-là, donc commence donc la zone Mantes Université, qui va être donc aujourd'hui qui est une friche de 35 hectares et sur laquelle beaucoup de projets sont lancés autour donc de manière centrale avec la halle Sulzer qui reste elle en place et qui sera conservée, dont la structure restera conservée, et donc un certain nombre d'équipements qui vont être lancés, dès un programme de logement qui est déjà lancé. Et avec le transfert de l'IUT de Mantes-la-Jolie, qui va se faire donc là dans la première partie de la halle. Alors toute cette zone effectivement donc va être complètement redynamisée. C'est un programme qui a été lancé en 2007, qui a été gelé et qui vient de repartir donc depuis l'année dernière.
Donc là, on a parlé de logement, de la halle Sulzer. Il y a aussi donc un parc urbain central, et puis aussi des commerces, des espaces, différents espaces de bureaux, d'activités, de services.
Effectivement, donc il y a cet ensemble-là qui a été dressé donc tout au départ en 2007, donc a été construit donc avec un urbaniste, puis finalement donc le sujet a été revu avec un autre urbaniste, et donc là sur lequel donc on travaille en concertation avec le propriétaire donc de la zone qui est l'aménageur, l'EPAMSA, et puis enfin la commune, puisque la commune ne participait pas aux réunions avec l'EPAMSA. Aujourd'hui c'est le cas, et donc nous sommes en contact avec l'urbaniste, et donc le dessin global de la zone, nous y participons, et donc enfin la commune a son mot à dire.
Et au niveau du calendrier, du coup, où en est-on? Quand est-ce que vous espérez que ça se finalise?
Alors, c'est une ZAC de la ZAC Mantes Université et adjacente à une autre ZAC qui est la ZAC Mantes Innova Park, qui est plus sur le domaine de Buchelet, mais c'est cet ensemble qui va se développer, et donc c'est un programme à une quinzaine d'années. Aujourd'hui, en gros, nous allons commencer donc la zone qui est entre la gare et la halle Sulzer, sur laquelle donc un programme de logement est en cours. Il y a 233 logements qui vont être construits, puis deux autres programmes. Nous avons également donc une école intercommunale qui sera installée là, et vous avez parlé d'un parc qui sera également donc développé dans cette zone, et ça c'est sur donc une échelle de 5 à 6 ans.
Autre sujet sur les projets en cours, fin 2020, vous aviez adopté un plan de sauvegarde d'urgence pour les équipements publics de la municipalité. Ce sont 10 projets d'avenir pour Mantes-la-Ville, répartis en 3 domaines. Même question que tout à l'heure, où en est-on? Quelle restructuration où en est-on sur les différents projets? Vous les espérez pour quand?
Alors, c'est, comme vous l'avez dit, c'est un plan de sauvegarde, hein, c'est donc un plan CY+, donc avec que nous avons signé avec le département. C'est un plan d'investissement jamais obtenu au niveau de la commune, hein, près de 25 millions d'euros sur ce premier plan. Nous espérons pouvoir en développer un second. Donc, comme vous l'avez dit, donc ce plan-là se répartit sur 10 projets sur 3 axes principaux, le scolaire, le sportif et le social. Et sur l'ensemble des 10 projets, nous les avons tous entamés. Ils sont tous entamés à des degrés différents parce qu'ils n'ont pas la même problématique. Le premier sur lequel nous avons commencé et quasiment réalisé, puisqu'il est à 80%, c'est l'école numérique, où c'était donc d'équiper l'ensemble des écoles de la commune de vidéos numériques interconnectées, d'équiper l'ensemble des enseignants. Mais ça se fait également donc avec l'éducation nationale, qui doit former les enseignants et qui doit être moteur également pour que ce projet soit mené à bien. Il nous reste maintenant à équiper les classes maternelles de tablettes. Donc là, par exemple, ce programme est lancé. Nous avons sur le scolaire hier, ne serait-ce qu'hier, donc nous avons un jury pour les Alliés de Chavannes, un jury pour déterminer donc un groupe de trois architectes sur lesquels le candidat final sera retenu à la fin du mois de septembre. Donc voilà, il y a un certain nombre d'indentations à respecter au niveau des appels d'offres. Mais l'ensemble des projets sont lancés. Au niveau sportif, nous avons le terrain synthétique au Moulin des Rades qui est enfin donc réalisé et aujourd'hui donc fonctionnel. Nous avons les équipements de proximité, des aires de jeu qui rayonnent sur toute la ville. Il y a 23 sites, que ce soit des city stades, des terrains multisports sur lesquels on peut jouer au foot et au basket, des street work sur lesquels donc c'est des espaces de cardio, et puis de manière un petit peu plus légère, des tables de pique-nique et des terrains de pétanque.
Un petit mot sur le budget, comment la ville gère son budget, notamment l'investissement public, sans augmenter l'impôt communal.
Alors la commune gère en bon père de famille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, on a même une petite contraction du budget, parce qu'on essaye vraiment de faire attention à l'ensemble des dépenses. Nous obtenons, des aides avec des partenaires, parce que nous avons, ça fait partie de notre programme dès le départ, de se dire, voilà, pour investir, il faut trouver l'aide de partenaires, et c'est ce que nous faisons, ou que soit l'État. On a parlé de la cité éducative, mais on a aussi Maison France Service, donc ça, c'est grâce à l'État. La région, donc, pour un certain nombre d'équipements, et donc le conseil départemental, qui nous accompagne très, très fortement sur l'ensemble des 10 projets d'avenir. Ces investissements se font grâce à des partenaires. Notre sujet, c'était de dire, voilà, nous n'allons pas augmenter les impôts communaux, hein, parce qu'il y a d'autres impôts, et de maintenir un budget sans appeler l'impôt communal. C'est effectivement donc un exercice guerre facile, mais néanmoins, lorsqu'on gère un bon père de famille, on y arrive.
On termine cet entretien en parlant de ce qui se passe à Mantes-la-Ville côté culture, avec deux hommages notamment. D'abord celui à Papa Cissé, ancien médiateur municipal. À l'occasion du Paris-Nice, un artiste de street art a réalisé son portrait géant sur la façade d'un immeuble. C'était important pour la ville de rendre hommage à cette personnalité.
Complètement. Dans notre programme aujourd'hui, si nous sommes en place, c'est parce que donc nous avons la volonté donc de remettre de manière principale et incontournable la cohésion sociale, la réconciliation, et bien évidemment donc Bakoré Cissé, dit Papa Cissé, a été un médiateur incontournable. Reconnu par l'ensemble des quartiers de la ville. Il est décédé en 2020, et il nous semblait donc important. Effectivement, nous avons profité du Paris-Nice, de la présentation de cette œuvre, parce que c'était le Paris-Nice se déroulait au niveau du boulevard Roger Salengro, l'immeuble dont vous parlez, sur laquelle est située la fresque, est sur le boulevard Roger Salengro, à l'entrée du boulevard Salengro, à la sortie de l'autoroute, mais également en face du CVS Arc-en-Ciel, et qui était non loin du logement de Papa Cissé. Et donc effectivement, c'est un hommage, et l'ensemble de la famille, l'ensemble des habitants étaient contents, et il va pouvoir continuer à nous regarder pendant quelques années.
Et puis Mantes-la-Ville rend aussi hommage au saxophoniste Manu Dibango, décédé il y a 2 ans. Il était un partenaire notamment du facteur d'instruments Selmer. Alors comment la ville lui a rendu hommage ?
Alors Manu Dibango, donc saxophoniste, avec donc un saxophone qui vient de Selmer, qui est installé bien sûr à Mantes-la-Ville, hein, c'est également la raison donc de cet hommage, qui est un hommage global. Nous avons au parc de la Vallée donc une scène qui est ouverte sur le parc, qui est ouverte à la fois donc vers le ciel, le parc, la ville, mais également donc le rue qui passe à côté, et c'était important pour nous que cette scène s'appelle Manu Dibango, parce que voilà, ouverte sur l'espace comme l'était Manu Dibango.
Il y a donc cette exposition Papa Groove à voir jusqu'à fin avril à l'espace culturel Jacques Brel.
Et qui, voilà, on espère monter un petit festival à chaque fois autour de cette date de fin mars.
Et puis dernière chose, le traditionnel Salon des Arts Mantevillois qui fait son retour. Il commence demain à l'espace culturel Jacques Brel, là aussi. Ça y est, il y a aussi le contexte sanitaire qui a empêché certains événements culturels, mais là, ça y est, Mantes-la-Ville revit.
Alors exactement, c'est notre volonté, hein, c'est notre volonté d'investir pour que les établissements publics donc soient rénovés, voire construits, de la même au niveau des bailleurs, mais bien sûr au niveau du rayonnement culturel. L'espace donc Jacques Brel aujourd'hui va pouvoir accueillir des spectacles, et puis bon, ben, bien sûr donc ce type d'événement là, qui celui-ci va durer une semaine, avec un thème qui est celui des régions, et puis avec un artiste consacré donc à la calligraphie arabe.
Merci beaucoup Sami Damerji de nous avoir reçus en direct ce matin à Mantes-la-Ville.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci également à notre réalisateur Robin. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. On marque une pause et on retrouve Pauline et Fredo pour la matinale jusqu'à 9h. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.